Bonjour, 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 c'est Symbiose. Donc aujourd'hui on reçoit Nicolas Vion qui est le fondateur, créateur, je sais pas ce qu'il faut dire, du projet Shtuka. Nicolas va nous en parler. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide? Et puis après ça on va passer au niveau du libre. Juste une petite introduction.
Bon bah moi je m'appelle Nicolas Vion, je fais de l'informatique depuis que je suis adolescent, et puis à l'université j'ai commencé à m'intéresser aux Russes, et puis j'ai eu l'occasion de partir en Russie, et un peu par hasard j'ai commencé d'abord pour moi-même, j'ai démarré un projet donc qui aujourd'hui s'appelle Projet Shtuka, et qui a pour ambition de rassembler dans un ensemble cohérent des collections audio libres de mots et expressions pour plein de langues, donc le français, le russe, le chinois, voilà.
Très bien. Alors bon, je l'avais parlé, on fait en général, de façon systématique, les nouvelles du libre, donc quelques infos sur le libre qui ont retenu mon attention. Tu es bien sûr invité à les commenter si le sujet t'intéresse.
Si j'ai un avis.
Tu es le bienvenu. Donc premier sujet, le logiciel libre manque de femmes. Alors bon, où sont les femmes, on se demande. Donc non, il y a à peu près 30% de femmes en informatique en règle générale. Et on découvre que dans l'informatique libre, on est à 2 ou 3%. Donc la différence est absolument considérable. Et donc voilà, donc il y a des études qui ont montré ça. Il y a un certain nombre d'informaticiennes du libre qui mènent des gros projets, etc., qui sont exprimées sur la question en disant qu'on pouvait tout à fait être une femme et faire du libre, qu'il n'y avait pas nécessairement de sexisme ou que c'était pas mal accueilli, mais bon voilà, qu'il y avait des méthodes de travail qui étaient peut-être un peu plus, c'était leur point de vue un peu plus difficile d'accès, et qu'en tout cas bon voilà, fallait y venir, donc voilà, c'était juste pour citer ce truc là
non, c'est sûr que c'est un peu un problème, parce que c'est important, je pense, que les projets aient le souci d'avoir une attitude particulière vis-à-vis des filles. Il y a notamment le projet Debian qui a un sous-projet Debian Woman, donc essaye d'organiser les filles autour du projet Debian, et elles sont très très actives dans la communauté Debian. Il y a aussi chez Mozilla, Mozilla Woman je crois, donc c'est un projet qui est en train de se monter. Puis à une époque à Paris, il y a toujours plus ou moins, mais une association, les Grab Girls, donc essayer pareil de rassembler des filles autour du logiciel libre. Voilà, donc je pense que c'est...
Ok, donc ça bouge, bon. Mais a priori, il n'y a pas de raison que les filles ne puissent pas contribuer.
Oui, non, non. Voilà. D'ailleurs, il y a une femme, aujourd'hui un des langages les plus utilisés dans l'industrie, alors c'est un vieux langage, mais le COBOL, qui est très utilisé en comptabilité notamment, il faut savoir que c'est une femme qui est à l'origine de ce langage. Voilà.
Donc voilà, donc elles existent. Ok. Seconde information intéressante, à mon sens. Une étude montre qu'en France, 82% des entreprises utilisent des logiciels dits open source ou libres. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors au moins un, donc ça ne veut pas dire qu'elles fonctionnent uniquement comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde en utilise. Après ça, bon, là, c'est un article qui revient là-dessus et qui après ça donne un peu par le type de logiciel, mais en tout cas, donc c'est absolument pas, ça prouve que le logiciel libre n'est plus quelque chose d'anecdotique et un truc de spécialiste. Qu'aujourd'hui, les utilisateurs peuvent l'utiliser et dans des milieux professionnels, ça pose aucun souci.
Oui. Et puis dans la vie quotidienne, il faut savoir que on est entouré d'objets de modems, de petits objets en tout genre, de téléphones qui tournent avec Linux. Et puis quand on utilise Internet, Google ou n'importe quel gros site, Wikipédia, il faut savoir que indirectement, même si on est sous Windows, on utilise Linux parce que c'est ça qui permet de faire tourner tous ces gros sites.
Ouais, là-dessus, on avait fait une émission il y a longtemps sur avec David sur tout ce qui était PHP, ce genre de choses, et on avait cité quelqu'un de chez Yahoo qui disait que sans logiciel libre, des boîtes comme Yahoo ou Google ne pourraient pas tourner, parce que s'il fallait qu'ils payent une licence pour chaque serveur et pour chaque base de données qui déploie, ils n'auraient jamais pu monter les activités qu'ils ont montées. Très bien. Alors, sujet suivant, c'est comment dire, relatif à Firefox. Donc, une info qui a été diffusée par Mozilla. Il y a un petit malin qui a déposé le nom de domaine mozilla.fr. On se demande pourquoi il n'était pas déposé avant, mais bref. Donc, un type dont c'est la spécialité, hein, qui fait son business là-dessus, et qui, à partir de mozilla.fr, distribue une version de Firefox qui marche tout aussi bien que n'importe quelle autre version de Firefox. Sauf que le moteur de recherche, le petit champ qui permet d'accéder au moteur de recherche intégré, renvoie vers son truc qui est une bête page qui va interroger Yahoo, mais qui met sa pub à la place. Et qui, semblerait-il également, mettre ce moteur-là dans Internet Explorer si on est sous Windows et faire d'autres trucs dont on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Enfin bref, je trouve ça assez intéressant, c'est une illustration de ce qu'on peut faire avec les sources en négatif, donc il faut savoir rester prudent et dans la mesure du possible aller télécharger le logiciel sur le site des gens qui l'ont développé. Voilà, élément suivant, on y vient. Alors oui, donc une chose très intéressante, ça fait écho à notre émission du mois dernier sur la neutralité du net avec Benjamin Bayard. Donc sujet qui va devenir extrêmement brûlant au vu des déclarations et de ce qui s'est passé là pendant le mois dernier avec l'affaire de notre ministre de l'Intérieur là qui à l'université d'été du, je crois que c'est l'université d'été, hein, je crois de l'UMP, oui. A été pris comment dire, filmé en train de faire de l'humour, enfin on se qualifie de l'humour un peu douteux, et donc et évidemment il faut savoir qu'il était filmé par la chaîne publique Sénat, donc et le comment dire, le truc a été diffusé par internet puisque évidemment il y a la censure sur Public Sénat, c'est pas une info intéressante donc on va pas la diffuser. Et donc, à la suite de ça, on a commencé à lire, entendu, divers hommes politiques, essentiellement de droite, dire que Internet était une zone de non-droit et qu'il fallait faire cesser tout ça. Donc, on comprend qu'évidemment, une zone dans laquelle on peut pas censurer, c'est quand même embêtant. Bon, voilà. Bon, l'affaire, pour en revenir dessus, est quand même assez marrante parce que c'est quand même Le Monde, hein, qui est quand même, comme tout le monde le sait, un repère de rebelles, hein,
révolutionnaires.
C'est évident, qui a diffusé cette vidéo en premier, donc bon.
Oui, et puis en plus, Le Monde, c'est quand même lié à la presse papier. Donc, voilà. Montrer cette affaire comme exemple, justement, de Internet comme zone de non-droit, finalement, c'est, voilà, ça reste, c'est.
Tout à fait.
Le Monde et finalement le fait que ce soit électronique par Internet ou en papier, bon là, ça permet d'ajouter des vidéos, des choses comme ça, mais bon, ça.
C'est vrai que ça a plus de force quand on voit les images que quand on lit quelque part un entrefilet, on peut s'envoyer le lien. Alors, grande déclaration en disant qu'il fallait mettre Internet au pas. La loi DAFCI 2 a été votée sans surprise. Est-ce que c'est vraiment la peine d'en parler? On ne sait pas trop parce que de toute façon, ce truc est inapplicable. Il y a l'OPSI qui vient, donc vraiment des volontés de mettre au pas Internet. On en parlait le mois dernier. Donc, dans ce cadre-là, aux États-Unis, la FCC, qui est l'autorité de régulation des télécoms, a fait une série de nouvelles règles qui visent à garantir un Internet ouvert et neutre. Et donc, chose intéressante, c'est que les industriels ont protesté en trouvant que c'était totalement anormal, etc. Et notamment ceux des télécoms, parce que leur grande ambition, on en avait parlé le mois dernier, c'est de faire des trucs où des abonnements, où on a accès à une chose et pas à une autre. Par exemple, si on a l'internet mobile, rien ne devrait empêcher de faire du téléphone sur IP, c'est-à-dire ne plus payer de factures de téléphone exorbitantes, sauf que ils bloquent ces trucs-là. Et puis après ça, il y a énormément de choses, on en a parlé le mois dernier, on ne va pas revenir dessus. Donc c'est intéressant de voir que dans un contexte où chez nous, il y a des poussées très fortes pour remettre en cause la neutralité du net, aux États-Unis, la FCC prend des dispositions en faveur de la neutralité du net. Mais en tout cas, il est probable que dans les 2 ans à venir, on ait une bagarre assez dure sur le sujet. Voilà, ouais, autre sujet intéressant, donc une entreprise, c'est une affaire qui remonte à 2001, il y a eu une jurisprudence, une entreprise a été condamnée pour violation de la GPL d'ailleurs, d'une licence libre. Donc l'histoire, c'est une boîte qui s'appelle Edu4 et qui avait fourni donc en 2001 à l'AFPA une application. Et donc ça veut dire que c'était une application libre sous GPL. et qu'elle avait en gros, bon, elle a repris le code source, etc., caché le fait que c'était une application sous GPL, et dit coucou, voilà, c'est à nous, c'est nous qui l'avons fait, et en le traitant comme un logiciel propriétaire. Donc là, c'est la cour d'appel qui a confirmé une condamnation, donc Educator a été condamné. Ce qui est très intéressant dans l'affaire, c'est que ce ne sont pas les ayants droit, c'est-à-dire les développeurs du logiciel, qui ont mené
la bagarre,
la démarche. C'est l'AFPA qui a dit, en tant qu'utilisateur d'un logiciel libre, j'ai le droit d'avoir accès aux sources, et vous me refusez ce droit. Donc c'est doublement intéressant, d'une part parce que c'est une seconde condamnation en appel, donc une reconnaissance de la validité de la GPL, et par une personne qui n'est pas l'auteur du logiciel. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
Mais c'est sûr que c'est pas que les auteurs qui ont intérêt à ce que le logiciel soit fourni avec les sources. Un organisme comme l'AFPA, il a tout à fait les moyens de faire sous-traiter une modification du logiciel, etc., ou le faire même en interne. Et c'est sûr que si on a un logiciel sans les sources, on peut pas faire grand-chose.
Voilà. Alors, autre petite nouvelle qui a fait un peu grincer des dents et fait un peu de bruit dans le monde de l'informatique libre. Déclaration de Linus Torvalds. Donc, Linus Torvalds, c'est le gars qui avait lancé le noyau Linux, ouais. Le fameux noyau Linux, et qui a déclaré qu'il était bouffi et énorme et qu'en gros, il était devenu assez important. Il avait été questionné sur le sujet où on lui a fait remarquer que depuis plusieurs années, à chaque nouvelle version du noyau, il perdait 2% de performance. Et donc là-dessus, il a dit, effectivement, il est trop gros, il est devenu bouffi énorme, ce sont ces termes, et qu'il n'avait pas de solution miracle pour régler ça. En tout cas, ça pose des tas de questions. Et là-dessus, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Personnellement, ça me dépasse totalement.
Non, je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. C'est sûr qu'un projet qui fait des millions de lignes, ça finit par être beaucoup plus difficile à maintenir. Bon, là, l'intérêt, c'est... là, tout ça s'est fait dans la transparence aujourd'hui. Du coup, et puis en plus, Linus, il est connu pour son franc-parler. Donc, ça fait un peu de bruit, mais finalement... c'est fait dans la transparence et ça veut dire qu'ils ont conscience du problème, ils le cachent pas et voilà, c'est plutôt ça montre plutôt justement les aspects positifs du logiciel libre, je pense.
Ouais, c'est qu'on arrive à voir les problèmes en face. Très bien. On va s'écouter un morceau. Donc aujourd'hui, je suis allé prendre de la musique libre, mais de la musique russe. Bon, ça va pas être flagrant parce que ce sont des Russes qui chantent en anglais. J'ai pas trouvé de Russes qui chantaient en russe. Donc c'est un groupe qui s'appelle Unwave, sous licence Creative Commons by NCSA 3.0. Donc, ce qui veut dire qu'on peut diffuser leur musique, la modifier, mais pas en avoir un usage commercial. Voilà. Donc le premier morceau s'appelle Double Clic.
On écoute. No relax.
Donc voilà, nous sommes sur Radio Libertaire 89.4 avec Nicolas Vion de Stuka, donc qui nous a parlé un petit peu en début d'émission. Donc Stuka qui consiste à faire des collections d'enregistrements audio de mots dans différentes langues.
Oui, de mots, de proverbes, enfin plus généralement d'éléments du langage. Ça peut être des expressions idiomatiques, enfin tout un tas de choses.
Alors on va commencer par le début. Donc tout à l'heure tu nous parlais de ton départ en Russie pour apprendre le russe. Alors, est-ce que tu peux nous raconter donc de comment tu es venu à faire ce projet à partir de ce choix de partir en Russie?
Bon bah donc j'ai commencé le russe un peu tardivement à l'université. Et puis je me suis rendu compte que j'étais passionné par ça et j'avais pris la décision d'arrêter les cours d'histoire à la fac. Et donc j'étais un peu déjà sur un deuxième échec universitaire. Donc j'ai décidé d'une part pour apprendre la langue plus vite et puis d'une autre part vis-à-vis de des problèmes financiers, etc. J'ai décidé de partir en Russie, de trouver un petit boulot de prof de français. Et donc ça me permettait à la fois d'être autonome, indépendant, et d'être en contact avec la langue du matin jusqu'au soir. Donc, quand je suis arrivé là-bas, il s'est trouvé que j'étais en contact essentiellement avec la communauté un peu francophone, enfin c'est-à-dire les Russes qui s'intéressaient aux Français, c'est-à-dire c'était mes élèves et puis mes collègues qui étaient tous profs de français. Donc il a fallu dans un premier temps que j'éloigne un peu tous ces j'éloigne un peu toutes ces ces personnes qui me voyaient un peu comme le petit français de service et que je crée un peu des liens avec des gens qui n'avaient rien à voir avec le français. Bon, j'ai un peu réussi, mais j'avais un peu de bon, j'ai commencé à apprendre comme ça pendant 6 mois. Un jour, c'était mon voisin de chambre qui était russe et qui était passionné par l'anglais. Il m'a montré un peu sa technique, comment il faisait pour apprendre l'anglais. Alors lui, et puis il faut savoir que c'est assez courant en Russie, il avait réussi à pirater en quelque sorte la base audio, enfin d'un dictionnaire électronique russe. Or, il avait fait une méthode toute simple qui simulait les appuis sur le clavier, puis il avait récupéré les sons qui sortaient, enfin, il les avait enregistrés. Et donc, lui, il écoutait ça avec son lecteur MP3, simplement les mots anglais les uns à la suite des autres, et ça lui permettait de répéter simplement la prononciation et puis de se souvenir à chaque fois, de faire un petit effort pour se souvenir de la signification de ces mots. Et il m'a dit que c'était une technique qui était assez intéressante parce que ça lui permettait de travailler de façon intensive, même quand il était en train de marcher dans la rue, etc. Et il m'a proposé de faire la même chose pour le russe parce qu'il savait que j'aimais bien la programmation, etc. Donc il m'a dit, mais il faut absolument que tu pirates un dictionnaire avec la prononciation russe et puis on va faire la même chose. Voilà. Alors, moi, j'ai récupéré seulement une partie de son idée. C'était l'idée d'établir comme ça des collections audio. Parce que j'avais commencé à écrire un petit programme, en fait, qui me permettait de répéter mon vocabulaire, mais simplement de façon écrite. C'était un petit programme en PHP tout bête qui me posait des questions et je devais répondre, je devais traduire le vocabulaire. Et donc j'avais eu envie, enfin avec ce voisin, ça m'a donné l'idée d'ajouter le son à ce petit programme. Et plutôt que de pirater un dictionnaire, j'ai écrit un petit programme qui permettait d'enregistrer de façon systématique l'enregistrement de listes de mots. Et puis j'ai proposé j'ai été au magasin de disques du coin et puis j'ai acheté comme ça j'ai vu un CD de Delphi. Alors j'avais déjà fait du Delphi il y a longtemps. J'ai pas tout de suite commencé sous Linux parce que là-bas c'est vraiment marginal. Mm-hmm. Et puis internet coûte très très cher, donc il n'était pas question de télécharger une distribution Linux de 700 mégas, ça représente un mois de salaire en fait, simplement en bande passante. Et donc j'ai créé un petit programme qui permettait l'enregistrement de mots. Et au bout de deux ou trois semaines de code intensif, plutôt deux semaines, je lui ai proposé la technique. Et donc il a commencé à enregistrer des mots russes. Alors moi j'enregistrais les mots français et lui les mots russes. Et bon, ça a été un petit programme qui à l'origine servait simplement pour mes besoins personnels, pour m'aider à apprendre le vocabulaire. Et puis, voilà, que j'ai utilisé pendant une année. Mmh. Mais c'était une petite bidouille, voilà, dans mon coin, sur mon ordinateur. Et puis.
Petite bidouille qui.
Alors, l'avantage de cette bidouille. Donc, j'ai parlé du programme d'enregistrement. En fait, la technique est assez simple.
Oui, la bidouille, c'est ce qui donne le nom au projet, c'est ça?
Voilà, en fait. Bon, le nom du projet, c'est Shtuka. Shtuka, en russe, ça veut dire un truc. C'est souvent utilisé pour les indénombrables, pour dire un morceau. Et en fait, c'était un ami russe, un autre, à qui j'avais montré mon petit programme. Et puis, c'est vrai qu'il ne ressemblait pas à grand-chose, ce petit programme. Il faisait un peu tout, il faisait le café. Et donc, je lui avais déjà montré. Et un jour, il m'a dit... Da, ты мне уже показал свою штуку. Ça voulait dire, oui, tu m'as déjà montré ton truc. Alors, ça m'a un peu vexé. Mais comme le nom de mon projet, c'était toujours Project One, Projet 1, c'est-à-dire le nom par défaut des projets Delphi, même si j'étais un peu vexé, en fait, j'ai renommé le projet, le petit programme, je l'ai appelé comme ça, en tout cas. Alors à l'origine, c'était vraiment un nom provisoire. Voilà. Alors il faut savoir que au cours du temps, j'ai jamais trouvé de nom. Et puis des personnes qui se sont investies dans le projet ont apprécié ce nom sans savoir trop ce que ça voulait dire. Et donc ça finit par rester. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, j'avais parlé de la technique d'enregistrement. Mmh. En fait, la technique est assez simple. En fait, l'utilisateur définit des paliers de niveaux sonores. Et quand le niveau passe au-dessus du palier de déclenchement, ça déclenche l'enregistrement. Et quand le son passe en dessous pendant un certain temps du palier bas, ça arrête l'enregistrement. Et donc, en fait, une session d'enregistrement, c'est... On commence par donner des informations sur le locuteur qui va parler. On fournit une liste de mots. Et donc, il va lire les mots les uns après les autres. Et ça va enregistrer, comme ça, les mots ou les expressions dans des fichiers individuels. Voilà. Et donc, c'est...
Ça t'a permis d'enregistrer rapidement, et ça te permet toujours d'enregistrer rapidement un grand nombre de mots, c'est ça?
Voilà, à l'origine, c'était un peu... c'était assez difficile, quand même. Au bout de 200 ou 300 mots, on était vite... on devait s'arrêter parce que c'était fatigant. Mais au cours du projet, j'ai amélioré cette technique. En fait, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mm-hmm. Et donc, avec ces collections de mots, donc quand j'étais au fin fond de la Russie, là... ça me permettait de générer comme ça, à partir de listes textes, des listes de vocabulaire, de générer des listes de vocabulaire audio. Donc pour chaque mot, il allait chercher dans la collection, dans la base de données en quelque sorte, il allait chercher l'enregistrement correspondant, et en mettant tout ça bout à bout, ça faisait des petits dictionnaires audio que je pouvais mettre dans mon lecteur multimédia MP3 et écouter dans le bus, dans le train, le soir en m'endormant, enfin. Et donc ça permet vraiment d'assimiler le vocabulaire beaucoup plus rapidement.
D'accord.
Voilà.
C'était l'usage que tu en avais, c'était vraiment travailler du vocabulaire
Oui, c'était... Bon, en majeure partie c'était ça, parce que j'avais toute la journée devant moi pour utiliser le vocabulaire que je connaissais, pour essayer d'utiliser des mots nouveaux, etc. Et puis pour améliorer ma compréhension, pour améliorer ma grammaire, etc. Mais pour le vocabulaire, c'est vrai que ça me demandait un boulot un peu. Enfin, j'avais un peu du mal à assimiler des mots nouveaux. En fait, jusqu'à là, j'utilisais un petit carnet et puis je notais partout que j'avais toujours sur moi. Et d'ailleurs, mes amis se moquaient souvent de moi pour ça, parce que dès que je rencontrais un mot nouveau, hop, je sortais le carnet et puis le crayon, je notais. Mais il suffit pas de le noter dans un carnet. Ensuite, il faut que tous ces mots pour lesquels on se souvient du contexte, on se souvient de plein de choses, mais il faut quand même finir par les faire entrer dans sa cervelle. Et ça demande un boulot un peu particulier.
Et puis l'écrit n'est pas nécessairement satisfaisant de ce côté-là. C'est-à-dire que ce que tu vas inscrire dans ton carnet, tu vas le relire, mais tu vas le relire avec tes yeux de français et de francophone.
Bah souvent, c'est ce que font les étudiants. Ils rassemblent le vocabulaire dans des fiches, et puis c'est en le lisant qu'ils vont imaginer une prononciation. Et c'est cette prononciation qui souvent est fautive, parce que elle est orthographique, parce qu'elle se base sur le système phonétique du français. Par exemple, CAT ou HO, CAT, on va dire, c'est cat, HOME, c'est home. Et puis c'est cette prononciation fautive, imaginaire, qu'on va enregistrer. Et puis plus tard, on va avoir beaucoup de mal, si on part dans le pays, à désapprendre en quelque sorte le mot qu'on a déjà utilisé des milliers de fois, le désapprendre pour apprendre pour le remplacer par la prononciation réelle. Donc là, l'intérêt, c'est d'apprendre directement avec la prononciation d'un locuteur natif.
Très bien. Bon, on va s'écouter un nouveau morceau de Unwave, donc qui s'appelle Be My Killer en anglais, comme tout bon russe qui se respecte, et puis on se retrouve juste après.
I'm
Nous sommes bien sur Radio Libertaire 89.4 dans Symbiose, donc avec Nicolas Vion qui nous parle de Shtuka, donc projet de linguistique, enfin de linguistique, en tout cas cette collection de mots, et je parle de linguistique, j'ai un petit peu en avant. Donc tu nous expliquais juste avant la chanson que donc ce qui avait initié ce projet, c'était ton besoin d'étudiant en langue et en russe en l'occurrence, de pouvoir réviser ton vocabulaire de façon audio.
Oui.
Donc on y viendra un peu plus tard. Ton projet a plu à du monde. Tu n'es plus tout seul sur le truc aujourd'hui. Mais on peut se dire bon ouais ok, une collection de mots, à quoi ça sert quoi. Je veux dire, c'est juste une collection de mots. Enfin, ça a rien de fabuleux. Alors aujourd'hui, quels sont les usages qu'on a trouvé en dehors de cet usage pédagogique qui était le tien initialement, à quoi ça sert?
Bon, donc j'ai déjà parlé du premier, celui qui m'a amené à faire ça, c'est-à-dire ça permet de générer des listes de vocabulaire audio à partir de fiches de vocabulaire texte. Donc moi, c'est ce qui m'a amené à faire ça, mais en fait, c'est pas la seule chose qu'on peut faire. Et puis, donc j'ai déjà donné un peu les intérêts de ce type d'exercice, c'est que ça permet donc d'apprendre le mot directement en se basant sur la prononciation d'un locuteur natif, donc d'une personne dont c'est la langue maternelle. Mais l'autre intérêt aussi, c'est que beaucoup d'apprenants en fait ont une mémoire auditive. Alors, certains ont une mémoire plus visuelle, mais il y a un peu les deux types d'apprenants. Et pour moi, justement, le fait de pouvoir apprendre non pas en lisant mais en écoutant, eh bien ça permettait d'apprendre beaucoup plus facilement. Donc il y a ce premier point, donc les listes de vocabulaire audio, mais en fait il y a plein d'autres choses qui sont possibles de faire à partir de ça, et notamment c'est très utile pour les dictionnaires électroniques. Et notamment il y a assez rapidement, quand j'ai commencé à enregistrer des mots, je me suis adressé, en fait j'ai présenté ma démarche au Wiktionary en français, donc qui est le projet sœur en quelque sorte de la Wikipédia. Donc c'est un petit projet annexe qui a pour ambition de faire un dictionnaire multilingue, et donc eux, ça les intéresse vraiment d'avoir ces collections de mots, enfin ces collections audio, parce que ça permet d'insérer automatiquement dans les articles la prononciation par un locuteur natif. Et donc, ça s'est pas fait tout de suite, hein, ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, ils ont des scripts de leur côté qui permettent, en un clic, en quelque sorte, d'insérer des milliers de mots d'enregistrement dans les articles correspondants. Donc c'est bon, je parle de du Wiktionary parce que c'est un projet libre, mais il y a aussi d'autres dictionnaires qui sont souvent moins libres, mais qui utilisent quand même nos collections parce qu'ils en ont le droit, et c'est très bien. Donc il y a au moins 4 ou 5 dictionnaires qui font ça. Alors souvent c'est des dictionnaires web, mais il y a aussi des petites interfaces de dictionnaires sous forme de programmes, donc qui sont amenés avec les enregistrements sonores. Donc voilà les dictionnaires électroniques. Mmh. Il y a même une appli iPhone, j'ai vu il y a pas longtemps, qui permet d'avoir sur soi toujours sous forme de dictionnaire de pouvoir écouter les enregistrements. Puisque je suis dans les usages pédagogiques, en quelque sorte, donc pour l'apprentissage des langues, il y a encore c'est encore un autre intérêt. J'ai été contacté il y a 2 ans, je pense, par des professeurs de l'Université d'Orsay, et qui, depuis pas mal de temps, en fait, font des exercices interactifs pour les élèves des universités. De pas mal d'universités en France. À l'origine, c'était un projet qui faisait essentiellement des exercices interactifs liés aux sciences, donc de maths, de physique, de chimie. Mais ce sont depuis quelques années, ils font aussi des exercices pour l'apprentissage des langues, de l'anglais et du français, du FLE, ce qu'on appelle. Donc français, langue étrangère. Et donc il y a tout un tas d'exercices, de conjugaison, Ils ont plein d'idées là-dessus.
Alors, ce sont des exercices sous forme informatique ou...
Voilà, c'est des exercices... c'est pour ça que je dis interactif, c'est sur un ordinateur. Alors, eux, c'est sous forme web. C'est des classes virtuelles, en quelque sorte, où il y a les profs, les élèves, et puis... Et les professeurs peuvent mettre à disposition des élèves tout un tas d'exercices, ils peuvent même les noter, enfin permettre de les noter et donc c'est utilisé dans des TD, des choses comme ça, où ça permet aux élèves de travailler de façon autonome à la maison, etc. Bon, et donc pour l'anglais ou le français, pour des exercices de grammaire, de conjugaison, de phonétique, de plein de choses, ils avaient besoin de mettre les exercices correspondants, la prononciation de tous ces mots. Et donc, ils ont été.
Dans ce cadre-là, ça manque pas de n'avoir que des mots ou des expressions et pas des phrases entières ou ce genre de choses dont on a plus l'habitude dans les enregistrements de pédagogique de langue.
Alors, oui. Oui et non. Alors, en fait, les exercices qu'il faisait jusqu'à là, ça restait, en fait, par exemple, pour la phonétique, il présentait, par exemple, un phonème ou une voyelle dans l'alphabet phonétique international, API, et puis il demandait aux élèves, par exemple, retrouver parmi ces mots quels sont ceux qui contiennent ce son. Par exemple, donc il fallait, donc on pouvait écouter les sons et retrouver les mots qui contenaient, voilà, enfin c'est un exemple, mais aussi pour les conjugaisons de verbes irréguliers en anglais. Ça, on avait fait une collection pour ça. Même simplement le fait que ce soit des mots, en combinant tous ces mots comme on veut, on peut faire tout un tas d'exercices intéressants. Alors, c'est vrai que avoir des phrases, c'est bien aussi. Et justement, en fait, c'est assez rapidement, ces profs d'Orsay, ils ont eu envie d'être autonomes là-dessus, sur le plan d'être capables d'enregistrer ce dont ils avaient besoin. Et donc, on s'est rencontrés, je leur ai montré comment marchait un micro statique, etc. Et puis, quand on peut montrer à une personne plutôt qu'expliquer par mail, c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc voilà, ils se sont mis à enregistrer tout un tas de choses dont j'avais pas du tout pensé. Par exemple, ils ont enregistré une collection en allemand, une collection de termes mathématiques avec racine carrée, fonction de quelque chose, tout un tas d'expressions liées aux maths. Et donc là, c'est pas juste des mots, c'est souvent des ensembles de mots, racines, carrées, mais aussi des enregistrements de numéros, d'adjectifs numéros. Et donc l'intérêt, c'est que, en fait, on peut utiliser l'existant, mais on peut aussi, quand on a un besoin particulier, compléter la collection. Et c'est ça qui est intéressant avec le modèle justement des projets libres. C'est qu'on est à la fois utilisateur et on est invité à être acteur aussi.
Alors l'exemple, c'est que ton projet, c'est de faire des collections de mots, mais pour le mener à bien, tu fais des outils, et ces outils sont mis à profit à d'autres pour en faire toute autre chose, et c'est toute la force du modèle du libre, c'est qu'on arrive, même en prenant des petits bouts, à construire par-dessus ce qui s'est fait avant.
Ouais.
À ce propos, d'ailleurs, quelles sont les licences que tu utilises pour à la fois pour le logiciel et pour les collections de mots?
Alors, je me suis pas préoccupé de la licence pendant la première année, disons, du développement de cette technique, quand c'était vraiment une petite bidouille rien que pour moi. Et à un moment donné, j'avais du temps devant moi et je me suis dit, tiens, pourquoi j'enregistrerais pas plein de mots français, et puis comme ça je pourrais les mettre à disposition sur internet, et donc c'était en 2006 je crois, j'ai enregistré comme ça, j'ai récupéré un dictionnaire français-anglais qui était libre, j'ai enlevé la partie anglaise, j'ai récupéré juste l'index des mots français, j'ai ajouté des articles aux substantifs, c'est-à-dire aux noms, et j'ai enregistré tout ça, donc au bout de Ça a dû me prendre un mois en faisant par-ci, par-là, enfin quelques heures le soir. Et donc j'ai fait un, j'ai, il y a un ami qui m'a soufflé l'idée de faire une dépêche sur Linux FR. Et donc j'ai mis à disposition des utilisateurs comme ça cette collection de mots français sous licence Creative Commons BY. Donc c'est-à-dire la plus libre, disons, des licences Creative Commons. Et c'est comme ça un peu que le projet a démarré. Voilà. Donc pour les collections, j'utilise des licences Creative Commons BY. Donc les, bon, ça après, comme il y a d'autres personnes qui proposent leur propre collection, c'est pas forcément homogène. Voilà. Alors, pour les détails, c'est la 3.0 US. Parce que comme c'est le texte officiel est en anglais, ça permet aux projets comme Debian de bien pouvoir vérifier la licence, et ils sont prêts justement à héberger les paquets du projet Stuka. Alors que si c'était une licence française, ils n'étaient pas vraiment chauds. Parce qu'ils n'allaient pas, ils n'avaient pas la force de lire les textes dans toutes les langues, parce qu'il faut savoir qu'il y a des petites modifications parfois d'une licence à l'autre. Et puis pour les logiciels, j'utilise la licence GPL, la plus voilà,
la plus répandue. Oui.
C'est la plus répandue, c'est la licence de Linux, de GCC, de plein de choses.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Et sur les usages, donc on a fait le tour.
Là j'ai parlé des usages pédagogiques, oui. Mais. Je pense que le projet, plus généralement, maintenant qu'on arrive à un certain nombre de langues, il peut avoir un intérêt, enfin, au-delà de ça, il peut avoir un intérêt plus généralement scientifique. Le fait de rassembler comme ça dans un ensemble homogène des enregistrements de locuteurs différents, qui viennent de régions différentes, de langues plus ou moins proches, ça permet de... je pense que ça permet de constituer un corpus qui a un intérêt au-delà de simplement l'apprentissage des langues.
Oui, c'est un travail que les linguistes n'ont pas fait.
Bah non, je connais par exemple, il y a notamment une association qui s'intéresse à l'étude de la langue bretonne et donc des dialectes du breton. Et donc, ils ont des correspondants dans plein de régions, dans le Finistère Sud, dans le Finistère Nord, un peu partout. Et ils font des interviews qu'ils enregistrent, mais ils le gardent ensuite en interne. Je pense pas que ce soit... je pense pas que ce soit une volonté de leur part de tenir tout ça au secret. C'est simplement qu'ils n'ont pas forcément perçu l'intérêt de rendre public... Moi, comme je connaissais depuis longtemps le logiciel libre, ça m'est venu assez naturellement que ce matériel, même si c'est en quelque sorte de la matière première, ça peut permettre de créer quelque chose d'inattendu. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé que c'était important de le rendre public. Mais donc il y a tout un tas de chercheurs qui font ce travail-là, de rassembler avec des... de récolter au fin fond de l'Afrique ou au Kamtchatka, au fin fond de la Russie, des fragments de langage avec des populations. Voilà, pour préserver ce patrimoine. Mais là, l'intérêt, c'est que c'est un ensemble cohérent.
Quand tu dis cohérent, ça veut dire que c'est une base de données dans laquelle tu vas pouvoir trouver des éléments.
Et puis les informations sont encodées d'une certaine façon, ce qui permet de traiter tout ça de façon automatique.
Et puis juridiquement, la licence permet le partage dans des conditions claires et la modification.
Ouais. Et donc il y a déjà en fait pas mal de choses. Donc moi, j'ai enregistré, par exemple, des mots français, mais avec ma prononciation un peu parisienne. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir les mêmes mots prononcés par un locuteur canadien ou du sud de la France ou du Berrichon ou du Nord ou de Belgique, de Suisse. Et je pense que ça permettrait à l'avenir, c'est un matériel qui comptera. Alors, bien sûr, c'est pas le seul moyen de récupérer des échantillons de langage dans 50 ou 60 ans, on pourra regarder les films, etc. Ceci dit, là, ça permet vraiment d'enregistrer de façon systématique des collections de mots ou de proverbes, etc. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant. Et puis, là, moi, c'est une démarche qui m'intéresse et ça m'a poussé, en fait. Donc, l'année dernière, j'étais étudiant à Moscou par échange universitaire. Et donc, j'ai eu l'idée j'ai été en Biélorussie pour enregistrer une collection de mots biélorusses. J'ai fait la même chose avec l'ukrainien, etc. Même si j'apprends pas le biélorusse, mais je sais que de pouvoir comparer comme ça des racines identiques, ce qu'elles sont devenues en biélorusse, en russe, en ukrainien, en serbe, en bulgare, c'est intéressant. Et voilà. Voilà. D'accord. Même si j'ai pas l'intention d'apprendre le serbe.
Je ne veux pas apprendre toutes les langues slaves, non.
Ouais.
Ok, très bien. Ben, on va se réécouter un morceau d'un wave qui s'appelle Vodka Kosovo. Et on se retrouve juste après.
Ok.
Symbiose sur Radio Libertaire, le morceau était très court, donc j'étais un petit peu surpris. Donc nous sommes toujours avec Nicolas pour parler de Shtuka. Donc tu nous as parlé des usages qu'il pouvait y en avoir, donc tu as eu des contacts notamment avec le milieu universitaire pour faire des exercices pédagogiques, pour faire des enchaînements, avoir des collections de mots, ce genre de choses. Après ça, au niveau du projet, tu es rentré de Russie après avoir appris le russe. Tu disais tout à l'heure que tu avais passé un message sur Linux.fr. Et qu'est-ce qui s'est passé après ce message ?
Oui, alors c'est un ami qui m'a soufflé cette idée, comme je disais, parce que moi j'aurais probablement pas eu ce courage, entre guillemets, même si c'est pas grand-chose. J'avais l'impression que c'était un projet qui n'intéresserait pas forcément beaucoup de monde. Du coup, je comptais faire ça dans mon coin. Et en fait, j'étais assez surpris du nombre de réactions. Donc, après le premier message, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont donné leur avis sur le projet. Alors, c'était pas encore un projet à l'époque. C'était juste une collection de mots, de 7000 mots français. Mais donc, les idées ont fusé un peu partout. notamment des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu n'utilises pas les tags ID3. Alors, il faut savoir que les tags ID3 c'est ce qui permet d'enregistrer des informations sur l'album, sur le nom de l'artiste, etc. dans les fichiers MP3. C'est notamment donc une idée qui a émergé des commentaires suite aux messages sur Linux.fr. Et des gens il y a eu tout un tas de débats sur la prononciation de tel ou tel mot. Alors par exemple, moi je disais abasourdir. Alors on m'a dit mais non, c'est pas abasourdir, c'est abasourdir. Et puis d'autres ont pris parti, non, moi je dis abasourdir, et puis comment ça se fait qu'on dit parasol et pas parasol, etc. Enfin bon, c'était assez riche en... Et donc j'ai enregistré finalement les deux, hein, abasourdir et abasourdir. Voilà, donc ça a été assez intéressant du point de vue, ça a permis de remonter tout un tas de choses. Et puis assez rapidement, par la messagerie interne de Linux.fr, j'ai été contacté par une personne, Eric, qui me disait tiens, bah, moi je fais de la programmation, ce que tu as fait, il faudrait qu'on le fasse pour Linux. Et puis ma compagne, elle est kazakh, donc elle est russophone, donc on pourrait faire la même chose pour le russe. Puis ça tombait assez bien parce que moi j'avais justement l'intention de trouver un locuteur pour le russe. Et donc quand je suis rentré en France, je lui ai envoyé le matos audio, et donc il a enregistré avec sa compagne des mots russes, et donc ça a été la deuxième collection. Voilà pour Linux.fr. Donc ça a permis vraiment de faire décoller et je pense que c'est à ce moment-là que de la petite bidouille, ça devient vraiment un projet, que j'ai pris la conscience qu'il y avait un peu un public et que ça valait le coup de faire le boulot un peu sérieusement. Voilà.
Très bien. Et alors une question qui me vient comme ça, en termes de matériel pour enregistrer, il faut du matériel sérieux quand même, non?
Alors il faut, je dirais c'est préférable. Parce que c'est pas parce que c'est un projet libre qu'on peut travailler,
n'importe comment, oui.
qu'on n'a pas les mêmes exigences que les professionnels. Et donc moi j'ai un peu cette préoccupation d'avoir une qualité d'enregistrement correcte, voire professionnelle. Alors moi j'utilisais à l'origine un micro dynamique que je branchais sur une carte son externe. Alors c'était pas terrible, mais c'était quand même mieux que les micros qui sont fournis avec les ordinateurs. Et puis assez rapidement j'ai voulu avoir un peu mieux. Et aujourd'hui donc j'utilise des micros statiques et avec un préampli micro, une carte son externe, et donc ça permet d'avoir comme ça une qualité d'enregistrement correcte. Voilà.
Très bien. Tu me disais qu'il existe un site internet qui fait un petit peu la même chose que Shtuka.
Ouais.
Mais justement, tout le monde peut rajouter ses collections de sons en les enregistrant dans son coin, et que justement ça pêche quand même par la qualité.
Oui, mais c'est très bien que ce projet existe, hein, parce que donc c'est effectivement un projet 100% web.
Alors on peut peut-être le nommer parce que...
Alors ça s'appelle Forvo, et donc c'est un site internet où les utilisateurs peuvent écouter des mots par-ci, par-là. C'est un peu, ils sont pas bien classifiés, etc. Mais ils peuvent écouter des mots et quand il en manque, ils peuvent les rajouter eux-mêmes. Donc il y a une petite application Flash qui permet de faire ça en direct. Et donc, je crois que c'est un projet qui est plus récent, qui est moins vieux que le projet Shtuka, mais ils ont pu rassembler comme ça beaucoup plus de mots. Enfin, nous on en est à peu près à 100 000 mots, 100 000 enregistrements pour 15 langues, je crois. Alors que eux, ils en sont à 350 000 mots pour 200 langues, à peu près 200 langues. Mais c'est vrai que souvent, c'est une espèce de patchwork de plein de petites, plein de bonnes volontés, mais d'une part, il n'y a aucune cohérence, c'est plein de voix différentes, chaque personne a enregistré deux ou trois mots, et puis avec du matériel audio qui souvent, c'est simplement le micro de l'ordinateur. Voilà, donc. Mais le plus gros problème, je dirais, de ce projet, c'est qu'il y a aucun. Alors, il joue un peu sur. Il se réclame projet libre, parce qu'effectivement, on a le droit de faire à peu près ce qu'on veut avec les enregistrements, à condition de les récupérer un par un. Donc, c'est à peu près comme une licence Creative Commons, share alike. Donc, c'est un peu moins libre quand même. Mais surtout, il n'y a aucun moyen de récupérer l'ensemble de la collection et les informations associées. Donc, par exemple, c'est pas utilisable pour le Wiktionnaire. Mais bon, c'est très bien que ce projet existe et ça montre un peu justement.
Oui, il n'y a pas de possibilité de récupérer tout d'un bloc, c'est ça.
Voilà, il n'y a pas de possibilité de
faire d'export massif.
Ouais, ouais. Mais moi, je trouve que c'est très bien que ce site existe parce que ça montre justement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je me souviens, au début du projet, il y avait beaucoup d'utilisateurs qui me disaient oui, il faudrait qu'on puisse enregistrer les mots un par un. Mais justement, Forvo montre la limite de cette démarche. Avec la technique d'enregistrement qu'on a mis au point, donc qui permet, donc j'en parlais tout à l'heure avec le logiciel adapté, ça permet en fait d'enregistrer 1000 mots en 40 minutes sans se fatiguer. Et donc, je pense que ça n'a pas vraiment de sens d'enregistrer moins que ça, en fait, pour une personne. Et puis, de toute façon, quand on veut une qualité d'enregistrement correcte, ça veut dire sortir le matériel audio, le micro, la carte son, etc. Rien que pour s'installer, puis pour après ranger, ça prend 10 minutes. Donc, à partir du moment où on a fait tout ça, c'est idiot d'enregistrer seulement deux mots. Autant partir pour 20 minutes d'enregistrement ou 40 minutes. Et donc voilà, je pense que ça montre justement que la technique de, on va faire un petit patchwork de plein de petites bonnes volontés, c'est pas forcément quelque chose qui d'intéressant pour à long terme. À court terme, c'est rigolo, ça fait un site sympa, mais et puis sur Forvo, il y a aussi des Néerlandais qui ont fait 4 ans de français. Ils se disent, moi je connais le français, donc je vais enregistrer des mots français. Et puis les mots français, du coup, des Néerlandais sont mélangés avec les mots de locuteurs canadiens ou parisiens. Et donc tout ça, c'est. Alors je dis pas qu'il faut pas enregistrer les locuteurs étrangers qui parlent en France, enfin les locuteurs néerlandais qui parlent français, ça peut être intéressant du point de vue scientifique pour voir le développement, par exemple, de la prononciation chez les pour étudier l'accent, par exemple, des locuteurs étrangers, ça peut être intéressant, mais vraiment dans le cadre d'un travail de recherche, mais pour du matériel pédagogique, je pense que ça n'a pas de sens qu'un russe enregistre du Wolof. Voilà.
Très bien. En termes de, tu parles de mots là, de 1000 mots, etc., de listes. Comment tu fais pour, enfin, comment vous faites, puisque vous êtes plusieurs, pour déterminer les bonnes listes?
Alors, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises listes. L'idée, c'est d'arriver avec le moins d'efforts possible, d'enregistrer les mots qui vont être les mots qui sont les plus nécessaires entre guillemets, ceux qui sont les plus courants, ceux qui vont être utilisés par les débutants. Puis c'est pas la peine d'enregistrer les termes techniques liés à la pétrochimie avant d'enregistrer le vocabulaire courant, par exemple.
D'accord. Donc du coup, vous pouvez pas prendre le dictionnaire et le lire en partant de A. Ou
alors on pourrait, pourquoi pas. On pourrait prendre le dictionnaire, le petit Robert je crois qu'il y a 70 000 mots ou même peut-être plus. Et puis enregistrer ces 70 000 mots, mais ça veut dire 70 heures d'enregistrement, un peu moins. Donc ça veut dire, si on fait une heure par semaine, ou une heure par semaine, ça fait plus d'une année d'enregistrement. Il faut trouver quelqu'un qui est prêt à le faire. Ça aurait aucun sens de faire la lettre A, B et puis de s'arrêter là. Mais donc voilà, on essaye de trouver
dans le dictionnaire pour faire du tri, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident, mais
si on regarde pour décider si tel ou tel mot est intéressant,
il y a des choses qui existent. Alors parfois on utilise ce qu'on appelle des listes de fréquences. Par exemple, le projet Wikipédia publie des listes de fréquences sur le corpus de Wikipédia. c'est-à-dire sur l'ensemble des articles de Wikipédia. Alors c'est un matériel qu'on peut utiliser.
C'est les articles les plus consultés, c'est ça ?
Non, c'est dans le contenu des articles, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent.
D'accord.
Alors ça marche assez bien pour le français et l'anglais, parce que en fait c'est assez facile de compter les formes les plus courantes. Mais c'est difficile de compter sur le même compteur, par exemple le pluriel et le singulier qui vont avoir des formes différentes. Par exemple, animal et animaux. Si on veut, c'est difficile de savoir si animal, le lemme animal, c'est-à-dire quelle que soit la forme, est courant ou pas. C'est un peu difficile. Mais ça marche quand même assez bien pour le français et l'anglais, parce que mais pour des langues avec déclinaison, c'est très difficile en fait, parce que savoir que Lyubov et Lyubov, c'est le même mot, c'est simplement des formes différentes, c'est un peu plus difficile. En russe, il y a 12, chaque substantif existe en 12 formes différentes, donc c'est un peu plus difficile. Mais parfois, on peut utiliser des listes de fréquences. Moi, pour la première collection française, j'ai dit tout à l'heure que j'avais utilisé un petit dictionnaire libre français-anglais. Donc là je me suis dit, il y avait 7000 mots et j'ai enregistré ces 7000 là. Bon, après je me suis rendu compte qu'il y avait quelques trous que j'ai essayé de combler par la suite. Il y a un instituteur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a établi une liste des mots qui doivent être connus par les élèves de CP, CE1, CE2, CM1. Mmh. Ben, j'ai utilisé à un moment donné ce listing, liste, oui. Pour vérifier qu'il n'y avait pas de trous dans ma collection, par exemple. Parfois, c'est simplement à l'usage, en faisant mes fiches de vocabulaire, je me rendais compte qu'il manquait un mot, donc je le mettais de côté pour le prochain listing. Ou alors, l'année dernière, j'ai donné des cours de français à des étudiants de Moscou, au centre culturel, et donc je me suis aperçu que de temps en temps, il manquait un mot. Donc c'est aussi un travail qui se fait au fur et à mesure. Pour certaines langues, ça s'est fait plus facilement. Par exemple, pour le chinois, il faut savoir qu'il y a un examen officiel qui s'appelle le HSK qui donne un niveau
très poétique comme nom.
Comment ?
C'est très poétique comme nom.
Mais qui donne un niveau pour les apprenants chinois qui veulent travailler en Chine et donc il y a un niveau 1, niveau 2, 3, 4 et il y a des listes de vocabulaire qui sont publiées. Donc c'est une publication officielle. Donc là, on a pu récupérer le vocabulaire pour le niveau 1. Donc c'était simplement 1000 mots, mais c'est les 1000 mots qui doivent être acquis lors de la première année d'apprentissage du chinois. Donc nous, ça nous a pris 40 minutes et ça peut servir à une personne pendant un an. Donc c'est intéressant là. Voilà. Pour le japonais aussi. Puisque même pour eux, ils ont des difficultés avec les idéogrammes. Donc ils publient des listes officielles des 4000 ou 5000 idéogrammes qui peuvent être utilisés par la presse quotidienne, justement pour ne pas être réservé à une élite, etc. Donc on peut se servir de ce genre de choses.
D'accord, mais tu n'as pas ça systématiquement pour toutes les langues. C'est-à-dire que tu dois, pour certaines langues, comme te retrouver dans des situations où il n'y a pas d'éléments, où c'est compliqué. Jusqu'à maintenant, comment... puis en plus, si tu connais toi pas la langue, tu ne connais pas encore toutes les langues. Mm. Pour le chinois, tu dis que c'était simple. Je suppose que tu as fait appel à un locuteur chinois. Pour les autres langues, tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas connaître toutes les langues.
C'est pour ça que c'est important de... Je ne peux de toute façon pas m'occuper de tout si on veut que le projet s'étende. Et donc, j'ai un peu... pendant longtemps, j'ai essayé de rechercher des gens capables de prendre des initiatives pour telle ou telle langue, de s'occuper du développement du Wolof. Et donc, après, c'est un peu à la personne de rechercher de son côté qu'est-ce qui existe. Et puis, si ça n'existe pas... Si c'est un apprenant, si c'est une personne qui apprend la langue, bah, il suit des cours. Donc il doit avoir lui-même, il doit mettre de côté de temps en temps du vocabulaire. Donc ça peut être utilisé pour compléter la collection. Si c'est une personne native, alors ça peut, s'il y a vraiment rien qui n'existe, on peut faire de façon systématique prendre. Par exemple, la maison, dans une maison, il y a plusieurs pièces. Alors, on va prendre la cuisine. Quels sont les objets qui sont dans la cuisine? quels sont les objets qui sont dans la salle à manger, etc. Puis une fois qu'on a fait la maison, on fait la ville. Alors il y a les rues, les carrefours, les magasins, etc. Puis après, on fait le vocabulaire de... Il y a des techniques comme ça qui permettent de rassembler de façon un peu systématique le vocabulaire.
Vous avez fait ce travail, vous, de poser sur le papier tous les mots comme ça en allant les chercher ou...
On peut pas le faire de façon, ça peut pas exister de façon universelle parce qu'il y a des notions qui, des concepts qui existent dans des langues et pas dans d'autres. Parce que ça dépend du quotidien. Et le quotidien de l'européen et n'a rien à voir, enfin des climats tempérés n'a rien à voir avec le quotidien d'un Kamtchat qui va être, donc c'est des populations nomades qui vivent au large du Japon, donc à l'extrême est de la Russie. Et notamment, par exemple, il y a chez les nanettes, c'est des Esquimaux, ils ont, je crois, une vingtaine de mots pour désigner la neige, en fonction de l'état, etc., alors que nous, on en a un seul. Mais par contre, nous, on a des mots pour désigner, des termes, un téléphone portable, ils doivent avoir ça aussi, mais plein de choses qui sont liées à notre quotidien et qui n'existent pas forcément,
Très bien.
Et donc on peut pas avoir. Je sais que j'ai trouvé par exemple des listes pour le bambara, etc. Et il y a plein de mots qui sont liés à la vaisselle traditionnelle africaine, qui c'est fait avec des calebasses et des choses comme ça. La cuisine traditionnelle, c'est des mots qui peuvent être fréquents. Mais par exemple, moi, un exemple, il y a des mots que j'ai appris d'abord en russe avant de connaître l'équivalent en français. Par exemple, le réfort, je ne connaissais pas le mot réfort, parce qu'en France on l'utilise assez peu, mais j'ai d'abord connu le mot russe, et puis la traduction. Et puis il y a plein de choses qui sont liées au quotidien, par exemple le banya, c'est l'espèce de sauna russe, il y a le borsch, la soupe de betterave, il y a plein de choses qui sont en fait, qui n'existent que... dans certaines langues. Donc ce travail-là, il ne peut pas être fait de façon universelle.
Oui, c'est là qu'on voit que ce qu'on sait sur les langues, c'est qu'il n'y a pas de correspondance absolue et évidente. Alors tu disais que tu avais passé, au niveau de la vie du projet du développement, tu avais passé une annonce sur Linux.fr. Tu disais que pour faire les collections, tu t'appuyais sur des gens qui sont autonomes, qui sont en mesure de... qui sont des locuteurs de la langue et qui sont en mesure de déterminer eux-mêmes quelle était la bonne liste. Alors, aujourd'hui, combien il y a de personnes dans le projet? Comment tu les as recrutées? Quelles sont les difficultés auxquelles tu as pu te confronter?
Alors, combien il y a de personnes dans le projet? C'est un peu difficile de répondre à cette question, parce qu'il y a des gens qui le sont plus ou moins, qui font une petite aide ponctuelle, etc. Mais, on est entre 5 et 10, disons, à intervenir de temps en temps sur le projet. Alors comment je les ai recrutés? Je les ai pas recrutés, j'ai pas fait. Mais c'est des gens qui m'ont contacté, ou alors le plus souvent quand même. Jusqu'à là, ça a été des amis à qui je parlais du projet, donc qui ont envie de participer un petit peu. Il y a eu par exemple ma prof de suédois quand j'étais à la fac, qui était en plus qui faisait de la recherche en acquisition du langage. Donc tout cet aspect. Pédagogie des langues et puis nouvelles technologies, ça l'intéressait beaucoup. Et elle a enregistré comme ça une petite collection de 4500 mots suédois. Il y a un ami chinois qui a enregistré les mots chinois. Parfois, ça a été une attitude un peu plus volontariste de ma part. C'était quand j'ai été, par exemple, en Biélorussie. Alors, j'avais un contact à Minsk. Et puis, mais qui n'était pas, qui était russophone. Il parlait pas. Sa grand-mère parlait biélorusse, mais lui-même, il se considérait pas comme, je sais pas, biélorussophone. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire. Et donc, j'ai été avec lui. On a été à la fac de lettres de Minsk. Et puis, on a toc 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 à la chaire de biélorusse. On a vu il y avait des jeunes étudiantes, et on leur a présenté le projet. On leur a demandé si ça les intéressait d'y participer. Voilà. Pour l'ukrainien, c'est un peu la même chose. Je suis parti de Moscou à Kiev dans le cadre d'échanges entre la fac de Moscou et la fac de Kiev. Et puis sur place, j'avais une semaine. J'ai commencé par essayer de trouver quelqu'un de disponible 3 heures par jour et qui était d'origine, enfin, et qui était vraiment ukrainophone. Il faut savoir qu'à Kiev, c'est un peu 50-50. Et donc voilà, j'ai trouvé une personne qui était contente de participer au projet. Et puis il y a aussi des gens qui m'ont contacté par internet, par exemple Bernadette et Chila, les profs d'Orsay, c'est par internet qu'ils m'ont contacté. Il y a aussi parfois c'est des groupes de gens déjà organisés, par exemple, c'est pas forcément des personnes individuelles. Il y a notamment à la fac de Caen, il y a le service qui s'occupe de la mise en place du matériel pédagogique m'a contacté en disant nous on a une locutrice chinoise, elle peut peut-être faire des enregistrements chinois. Voilà, ça c'est encore en cours, mais ça s'est fait tout simplement par...
Tu me disais que tu m'as parlé de ton enregistrement en serbe aussi
l'enregistrement en serbe, mais j'en parlerai peut-être un peu à la fin, mais c'est un collègue puisqu'il travaille comme vigile en fait dans mon entreprise, j'avais créé une petite interface web qui lui permettait de travailler là-dessus, j'en reparlerai plus tard. Et donc il a pu participer comme ça au projet.
D'accord.
Et il y a des gens du livre aussi que j'ai rencontrés parce que à Paris on se connaît un peu tous. Rencontre mondiale du logiciel libre à Nantes, c'est des libristes marocains qui étaient venus aux rencontres mondiales qui ont participé à une session d'enregistrement qu'on a organisée sur place, et ça permettait en même temps d'ailleurs de faire une petite démonstration. Donc voilà, il n'y a pas une façon de faire, c'est toujours des petites initiatives, des coups de chance.
D'accord. Alors on va se réécouter un dernier morceau de One Wave, et puis après ça on verra un peu la mise en place de l'association, puisque vous êtes construit en association. Voilà, on se retrouve juste après. We'll be right back. Symbiose sur Radio Libertaire 89.4. Nous parlons aujourd'hui de Shtuka, le projet Shtuka, avec Nicolas Vion. Donc, Nicolas, on parlait un petit peu de tout à l'heure de la façon de trouver les locuteurs, de faire les listes de mots et ce genre de choses. Et donc, Shtuka s'est constitué il y a peu de temps en association.
Donc, tu veux que je te raconte un peu l'histoire
de...
Oui,
la façon comment t'en es venu, parce que jusqu'à maintenant, c'était parti d'un projet personnel, tu as rencontré du monde, etc. Je t'ai demandé combien vous étiez, tu m'as dit que c'était difficile à dire. Bah, par exemple, et donc t'en es arrivé à monter une association. Au niveau du projet, vous êtes plusieurs maintenant. Au niveau informatique, par exemple, est-ce que tu es le seul à développer ou vous êtes plusieurs?
Alors, je suis pas seul. Bon, le boulot c'est pas encore bien organisé, mais j'ai déjà reçu des aides un peu ponctuelles pour par exemple la maintenance de paquets par exemple sur Arch Linux, pour des petites aides ponctuelles. Pour l'instant, quand même sur le développement, je suis plutôt seul, des logiciels surtout. Pour le web, par contre, j'ai reçu un peu des aides d'autres personnes, mais on commence, c'est vrai, à être une petite équipe, et donc comme j'étais en France cette année, l'idée de monter une association est venue assez naturellement. Alors d'une part parce que en fait il y a la question, enfin comme pour tout ce qu'on fait, en fait il y a souvent besoin de sortir un peu de l'argent. Alors nous, c'est notamment pour le matériel audio, l'achat des micros, pour avoir des nouvelles stations d'enregistrement un peu autonomes, pour qu'on soit pas tous dépendants d'un seul micro, d'un seul ordinateur, etc. Et du coup, le fait d'être en association, d'une part, ça permet de structurer tout ça, et puis même éventuellement de demander des subventions à différents organismes. Donc pourquoi pas, puisque c'est, je pense, un projet d'intérêt,
en tout cas qui a un intérêt pédagogique, validé par au moins l'université d'Orsay.
Ouais. Et donc c'est tout à fait envisageable qu'on accepte, qu'on demande même des subventions. Donc pour ça voulait dire quand même être organisé en association et pas simplement le projet de shtuka.net, notre site internet. Donc il y avait cet aspect, mais c'est pas le seul. Donc l'aspect financier, l'aspect aussi par rapport au copyright des collections qu'on enregistre. Il faut savoir que jusqu'à là, le copyright, ce qu'on appelle le copyright holder, donc la personne qui détient le copyright, jusqu'à là, c'était, en gros, c'était la personne qui était enregistrée, plus le technicien qui avait organisé tout ça, et souvent c'était moi en fait. Mais ça veut dire que si on veut à l'avenir changer de licence pour telle ou telle collection, il faut recontacter les personnes qui sont dans le copyright. Donc avec l'association, ça permettait par exemple d'enregistrer les collections en mettant comme copyright l'association Shtuka. Et donc ça simplifiera à l'avenir justement les problèmes de changement de licence, parce qu'il suffira de demander à l'assemblée générale de Shtuka ce qu'elle en pense, et puis, ou même au bureau, et voilà. L'autre aspect, c'est de pouvoir aussi lancer des collaborations avec d'autres associations. Notamment à Paris, il y a plein d'associations culturelles, associations kurdes, sénégalaises, où il y a des locuteurs wolof et bambara, etc. Et donc l'idée, c'était aussi de pouvoir lancer des collaborations avec ces associations, et donc c'est plus facile dans ce cas-là d'intervenir en tant qu'association à association, et pas seulement sinon l'autre aspect, c'est ça permet aussi de structurer un peu tout ce qu'on fait. Alors c'est pas encore ça, c'est en cours encore, mais ça permettra, je pense, du coup de que les uns et les autres sachent ce qu'ils ont à faire, et puis de se motiver, de se donner des objectifs à court terme, etc. Et donc c'est plus facile quand c'est une association que quand c'est simplement une bande de potes qui se connaissent plus ou moins, d'ailleurs, parce que C'était souvent j'étais le seul en fait lien entre tous ces gens. Et donc voilà l'idée de l'association est.
D'accord. A été lancée. Quels sont les projets et les évolutions des projets que vous allez que vous avez en magasin?
Alors les projets qu'on a en magasin. Il y a notamment donc j'ai parlé jusqu'à là de notre façon de faire pour l'enregistrement des collections dans telle ou telle langue. Ça voulait dire trouver une personne pour chaque langue, une personne un peu capable de prendre sur ses épaules tout un tas d'initiatives. Mais on a eu envie et puis d'enregistrer plein de langues, plein de mots ensuite ou d'expressions, de numéros, de tout ce qu'on veut, d'éléments du langage dans cette langue. Mais on a eu envie de développer aussi la démarche inverse, c'est-à-dire plutôt horizontale plutôt que verticale, c'est-à-dire au lieu d'étendre pour chaque langue, enfin pour peu de langues, avoir plein de mots pour peu de langues, avoir plein de langues pour un nombre limité de mots et avoir les liens entre ces mots. Et donc on a lancé un petit site qui s'appelle translate.stuka.net et c'est une petite interface web qui permet en fait en une heure pour quelqu'un qui connaît bien une langue de traduire un petit vocabulaire de 600 mots dans cette langue. Et donc ça permet d'être guidé parce que quand on a une dizaine de thèmes les traduire, il n'y a pas besoin de se poser des questions. On traduit, ça prend une heure à peu près, et puis ça correspond ensuite à 20 minutes d'enregistrement. Ça va permettre, je pense, et enfin ça a déjà permis en fait, de multiplier comme ça le nombre de langues. À l'origine d'ailleurs, je sais pas si on va continuer comme ça, mais à l'origine c'était par rapport à, on avait un contact qui était un étudiant à la Cité universitaire de Paris. Et donc j'avais créé cette interface pour lui permettre, il faut savoir qu'à la Cité internationale il y a des étudiants qui viennent un peu partout sur la planète, et donc d'avoir un outil à proposer à des gens autour de lui pour participer à une entreprise commune, comme ça, enfin un projet commun. Donc ça aurait été le petit lexique audio de la Cité internationale avec le projet Stuka. Bon, il se trouve que la coopération avec la Cité universitaire ne va pas forcément se faire. Mais en tout cas, on a cet outil qui permet facilement à n'importe qui, simplement qui ne comprend pas forcément encore l'intérêt du projet, mais simplement qui connaît une langue, de donner un coup de main. Et notamment, j'en ai déjà un peu parlé, j'ai mis sur le coup le vigile d'origine serbe de ma boîte. Mmh. Puis ça l'a amusé en fait. Donc comme c'est par thème, c'est assez facile et c'est même ludique. Donc il a fait la traduction et puis après on a fait l'enregistrement. Et comme en plus on a les liens entre tous ces mots dans plein de langues, il y a déjà le bulgare, le serbe, le russe, l'ukrainien, il y a le breton, l'italien, l'espagnol, le portugais. Et donc de pouvoir passer comme ça d'une langue à l'autre, avec des langues de la même famille, c'est aussi intéressant du point de vue de l'étymologie comparée. On voit par exemple on voit qu'il y a beaucoup de mots par exemple entre le russe, l'ukrainien, le serbe et le bulgare qui sont sinon proches, enfin soit identiques, sinon vraiment très très proches. Puis c'est intéressant de voir quand il y a des nuances lesquelles, des évolutions phonétiques, etc. Donc ça a un intérêt double, le fait de mettre en place un vocabulaire multilingue comme ça, mais je pense que le plus grand intérêt c'est d'avoir un outil qui nous permettra de mettre sur le coup des gens qui sont pas informaticiens, qui comprennent pas encore tellement l'intérêt du projet Stuka, mais là comme il y a le vocabulaire sonore, ça donne directement un intérêt qui est immédiatement compréhensible. Mmh. Et voilà.
Sans avoir donc, tout le travail de préparation, de création de listes et de choix des mots, etc.
Voilà. On a une liste partagée, oui. On est complètement guidé, du coup ça...
Ouais. Ça n'empêche bien sûr pas de faire le travail complémentaire avec d'autres mots au-delà de ces 650 mots.
On pourra faire un lot numéro 2, c'est-à-dire un vocabulaire un peu élargi. Mais l'idée c'est plutôt qu'au bout d'un moment... une personne qui a fait ce premier job en quelque sorte, et eh ben qui plutôt qui qui reprennent la démarche qui existait jusqu'à là, c'est-à-dire bah, en se posant la question, bah, maintenant que j'ai compris à quoi ça servait et que ça m'intéresse, bah, je vais essayer de rajouter plein de trucs. Parce que si on veut avoir, par exemple, des proverbes ou des... Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ces fameux mots qui existent dans une langue et dans cette langue seulement. Et donc ça, on ne pourra jamais les obtenir par le petit vocabulaire. Donc je pense que le petit vocabulaire, ça, c'est simplement un point d'entrée, mais un point d'entrée intéressant puisque ça a déjà permis d'enregistrer des mots en bulgare, en portugais, on a réenregistré des mots ukrainiens, mais on avait déjà une collection. Et puis là, on a plein de listings prêts à être enregistrés. On va faire ça dans le courant du mois d'octobre. L'italien, le breton. Et voilà. Et donc pour le travail avec les associations, ça va être un outil précieux.
D'accord. Voilà. Et d'autres projets éventuellement?
Alors, il y a ça. Après, donc plus généralement, c'est donc de continuer à développer les outils pour Linux. Enfin, pour Linux et les autres plateformes. Pour l'instant, l'outil un peu abouti, il n'existe malheureusement que pour Windows. Et donc, continuer le boulot de développement. Et puis, plus généralement, développer les collections dans plein de langues, notamment pour des langues africaines. Voilà, on va peut-être participer aux rencontres mondiales, rencontres africaines du logiciel libre qui aura lieu en avril. On va peut-être y aller pour voir sur place et on peut d'une part enregistrer des nouvelles collections et puis surtout trouver des gens et puis leur montrer notre technique et puis qu'ils soient un peu les correspondants locaux ensuite.
D'accord. Voilà. Alors, pour conclure, si on est des auditeurs d'origine étrangère qui sont comme dans la langue maternelle n'est pas le français, qui voudraient participer, comment s'y prendre?
Alors, le mieux, c'est de s'inscrire à la liste de diffusion, je pense.
Oui.
On peut aussi nous envoyer un mail pour nous contacter. Et puis, j'ai parlé du petit lexique. Une des premières choses à faire, c'est voir justement si la langue n'existe pas sur le petit lexique, bah, de commencer par faire la traduction. Et puis après, si la personne habite dans la région parisienne, et j'imagine que c'est le cas pour nos auditeurs, eh ben, on pourra se prendre un rendez-vous quelque part sur Paris pour procéder à l'enregistrement.
D'accord.
Puis en même temps, ça permettra de se connaître, parce que je pense que c'est important aussi d'établir des liens réels. Voilà.
Ok. Alors, est-ce que pour finir, tu peux nous donner l'adresse de Shtuka?
Alors, donc, l'adresse du projet, c'est shtuka.net, shtuka.net. Et le petit lexique, qui est pour l'instant, enfin, jusqu'à aujourd'hui, qui n'était pas vraiment public, donc c'est Translate, donc TRANSLATE, comme Translate en anglais, .shtuka.net.
Très bien. Voilà. Nicolas, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve.
Merci de m'avoir invité. À bientôt.
Voilà. Merci à toi.